Bien, mesdames, messieurs, tout le monde a pris place. J'ai reçu un certain nombre de pouvoirs pour cette séance. Magali Carbonel est représentée par Catherine Crozat, Jacques Fromm par Abida Sharif, Rémi Grand par Daniel Maire, Claude Maréchal par Marie-Claire Bilbor, Aline Triolet par Nicole Lesage, Pascal Marniquet par Christine Mazzi. Avant de commencer notre séance, nous devons élire un secrétaire de séance. L'usage veut que le plus jeune membre de l'Assemblée remplisse cette fonction. Youri Philippe étant là, personne ne peut rivaliser d'un point de vue de l'état civil. Pas d'opposition, pas d'abstention. Il est donc nommé secrétaire de séance. Mes chers collègues, nous avons appris il y a quelques jours le décès de Jean Mainjoz, décédé le 17 septembre dernier à l'âge de 94 ans. Jean Mainjoz a été membre du conseil municipal de 1971 à 1995. Il était une figure indissociable de celle de Bernard Stasi, qu'il a rencontré en 1970. Il a été son adjoint à l'urbanisme pendant le mandat qui s'est achevé en 1977. Puis, après la réélection de Bernard Stasi en 1983 et durant 12 ans, il a été son premier adjoint. Il a été également président du district urbain d'Épernay de 1983 à 1995. Juriste de formation, il était diplômé de droit public et de droit privé. Il travaillait dans le domaine des combustibles, puis dans le domaine des matériaux de bâtiment, au sein de la société Pron notamment. Il était profondément attaché à Épernay. C'était, pour ceux qui le connaissaient, un homme réservé au premier abord, mais un débatteur brillant. Et je me souviens, et il y en a peut-être quelques-uns d'entre vous qui se souviennent des débats qu'il avait notamment avec Odile Kopp, qui étaient toujours des débats assez disputés, mais toujours empreints d'une grande courtoisie. Et c'était vraiment, véritablement, des grands moments de la vie municipale. C'était un personnage exempt de tout sectarisme. Il avait la passion de convaincre, la volonté de ne pas blesser. Il était un amoureux d'Épernay, et notamment de l'histoire locale. Et c'était sans doute la personne qui sollicitait le plus le service des archives, parce qu'il était toujours à la recherche d'une anecdote historique concernant notre ville. Pour reprendre les propos de Michel Boulonnais, qui lui avait succédé au poste de premier adjoint, c'était un honnête homme au sens classique du terme. Il avait été, pour sa contribution à la ville d'Épernay, élevé au grade de chevalier de la Légion d'honneur en 2001, après avoir reçu la médaille de la ville en 1997. J'ai évidemment une pensée toute particulière pour Jacqueline, son épouse, et pour ses trois fils. Et je vous invite évidemment à respecter en sa mémoire une minute de silence. Je vous remercie. Nous allons, si vous le voulez bien, commencer l'ordre du jour de notre conseil municipal. Je passe pour le rapport 2.1 la parole à Christine Mazzi.
Oui, merci, monsieur le maire. Il s'agit d'une garantie d'emprunt auprès de la Caisse des dépôts et consignations au profit de la SA d'HLM Habitat de Champagne. Je vous propose d'accorder à la SA d'HLM Habitat de Champagne la garantie de la ville à hauteur de 50% pour un emprunt de 160 000 euros. Ce prêt permettra de financer la rénovation thermique de 40 logements situés rue Maurice Cerveau et Joseph de Venoges. Il s'agit de la deuxième partie d'un prêt dont la première partie d'un montant de 640 000 euros a fait l'objet d'une délibération lors du conseil municipal du 26 mars 2018.
Merci. Il s'agit donc bien d'un complément concernant les mêmes travaux et non pas d'un seul budget de 160 000 euros pour 40 logements, ce qui aurait pu paraître effectivement assez peu important, assez peu ambitieux. C'est donc bien la deuxième partie de crédit destinée donc à la sobriété énergétique de ces bâtiments. Y a-t-il des questions sur ce rapport? Pas de questions. Avis contraire, abstention, le rapport est adopté. Nous enchaînons avec le rapport, logiquement, 2.2.
Oui. Il s'agit de la décision modificative numéro 3. Je vous propose d'approuver les virements suivants qui figurent dans le rapport qui vous a été transmis. En ce qui concerne le budget de la ville, nous avons en dépense 18 000 euros pour la réalisation de la couverture du pas de tir à l'arc, 18 000 euros pour la location de véhicules, notamment pour les espaces verts suite à des pannes, ce qui nous oblige à louer des véhicules dans l'attente des réparations, 7 500 euros pour le nettoyage et l'étanchéité de la toiture terrasse de la médiathèque dans le cadre d'une mise à disposition payante, 4 200 euros pour les frais liés au PLU d'un montant total de 70 000 euros, 2 500 euros de crédit pour le règlement général, enfin pour le RGPD, le règlement général de la protection des données, qui avait été oublié lors de l'inscription au BP, 900 euros de subvention au budget annexe chauffage urbain, que l'on verra aussi par ailleurs, et puis 500 euros d'ouverture de crédit sur la SEM du ballon captif, puisqu'il y avait une petite erreur lors de l'inscription des crédits en juin. Nous avions inscrit 118 000 au lieu de 118 500. Toutes ces dépenses complémentaires sont financées par des recettes complémentaires, à savoir 30 000 euros sur des remboursements d'EDF, puisque EDF, nous fonctionnons par prélèvement, et donc nous avions été indûment prélevés sur certains sites, notamment le ballon captif. Donc nous avons fait des démarches, mais nous avons perçu le remboursement cette année, en 2019. Et puis 17 400 euros de complément de recettes par rapport au crédit ouvert sur la taxe d'aménagement. En ce qui concerne le chauffage urbain, il s'agit de passer les écritures de créances éteintes de 2017, ce que l'on a vu précédemment, qui sont donc financées par une subvention du budget principal.
Je précise que s'agissant des locations de véhicules pour les espaces verts, ce sont des engins plus que des véhicules. Ce sont
des engins.
Des véhicules spéciaux, camions et engins de levage et pas des véhicules. Sur ce rapport, des questions ? Pas de questions, pas d'opposition, pas d'abstention. Le rapport est adopté. Nous passons au rapport 2.3. Christine Mazzi.
Je ne le retrouve pas.
C'est le rapport concernant les tableaux des effectifs.
Tout à fait, pardon. Donc il s'agit effectivement de la modification du tableau des effectifs. Je vous propose d'approuver des créations de postes qui sont détaillées dans le rapport en votre possession, à savoir le recrutement d'un chef de projet aménagement urbain à temps complet pour le pilotage du projet de la passerelle du futur quartier Berge de Marne, un responsable PC sécurité pour le musée, ainsi que deux médiateurs du patrimoine, là aussi pour le musée.
Merci. Des questions ? Pas de questions, pas d'opposition, pas d'abstention. Le rapport est adopté. Rapport 2.4. Ça concerne la société publique locale SPLX DEMAT, qui est la société qui assure la dématérialisation pour un grand nombre de collectivités de notre région.
Oui, la ville d'Épernay est depuis 2016 actionnaire de la société SPLX DEMAT afin de bénéficier des outils de dématérialisation mis à disposition, notamment pour la télétransmission des actes de la collectivité et plus récemment la dématérialisation des marchés publics. Je vous propose, conformément à la réglementation, d'approuver le rapport annexé et de donner acte au maire de cette communication.
Merci. Pas de questions, pas d'opposition, pas d'abstention. Nous passons au rapport 2.5.
Il s'agit de la concession d'une place de stationnement à la SCI, le patio champenois. Je vous propose donc d'accorder à la SCI, le patio champenois, une concession de 15 ans au parking centre-ville, afin que ses gérants respectent les dispositions du PLU dans le cadre de la rénovation du bâtiment qui est situé 31 rue des Berceaux et 26 rue du Colonel Servania en matière de places de stationnement. Cette dernière ne pouvant être réalisée sur place ou à proximité, l'article L151-33 du Code de l'urbanisme permet de répondre à cette obligation par une concession de longue durée. Cette concession est accordée moyennant la somme de 6 500 euros. Et comme indiqué dans le rapport en votre possession, une telle disposition a été appliquée en mai 2018 pour un pétitionnaire se trouvant dans une situation analogue.
Alors, une petite précision, cette maison située donc à l'intersection, enfin, d'un côté sur la rue Servagnin, de l'autre sur la rue des Berceaux, est une maison qui est fermée depuis des années, qui est tout près de la rue Simone Caillé, qui va rouvrir, et c'est un restaurant qui va ouvrir à cet endroit-là. Donc, la personne souhaite transformer le garage en espace professionnel, et donc, pour compenser la perte de la place de garage, s'est engagé à louer pendant 15 ans une place de stationnement. Donc, ça va faire revivre ce bâtiment. C'est en face du Rebouledingue, c'était un petit peu le commerce que tout le monde connaissait. Et c'est vrai que cette maison était fermée pour des raisons que j'ignore. Est-ce que c'était une succession ? Est-ce que c'était une personne âgée en maison de retraite ? Et en tout cas, c'est intéressant de voir revivre cette partie du quartier qui était bien triste avec ses volets fermés depuis pas mal d'années. Pas d'opposition, pas d'abstention. Le rapport est adopté. Nous poursuivons avec le rapport 2.6, attribution de subventions. Christine Mazzi.
Oui, donc je vous propose d'attribuer les subventions qui sont énumérées dans le rapport en votre possession.
Merci. Des questions ? Pas de questions, pas d'opposition, pas d'abstention. Le rapport est adopté. Nous arrivons au rapport 3.1. Abida Sharif.
Vous est proposé. Donc, je vous invite à autoriser M. le maire à la signer. Elle est une annexe du rapport.
Ton micro.
Ah, je l'ai oublié. Donc, elle est une annexe dans le rapport pour votre position. Donc, vous le savez, depuis 2007, on a cette convention de gestion urbaine de proximité. Donc, elle a accompagné tout le renouvellement urbain et elle a accompagné les habitants pour mieux comprendre et pour mieux intégrer et en même temps participer à la réalisation de tout le renouvellement urbain. Et aujourd'hui, on l'a retravaillé avec tous les partenaires. Donc, il y a un comité de pilotage qui a décidé des axes à suivre pour cette gestion urbaine de proximité sociale. Donc, voilà.
Merci. Parmi les axes qui ont été définis,
il
figure en page 2 du rapport.
Oui.
Il y a notamment l'axe 1, le respect du cadre de vie, et l'axe 4, favoriser les pratiques éco-citoyennes. Je voudrais profiter de l'occasion pour m'indigner d'une recrudescence des dépôts de déchets d'hiver le long de nos voies publiques. C'est un phénomène, j'ai pu le mesurer ce matin parce que j'avais une réunion avec une vingtaine de maires de la région rémoise. C'est malheureusement un phénomène qui prend de plus en plus d'ampleur, qui est probablement lié à l'augmentation des coûts de mise en déchetterie ou en déchetterie spécialisée s'agissant d'entreprises du bâtiment. Et il s'agit pour autant d'une véritable atteinte à l'environnement. Alors j'ai eu l'occasion d'en parler l'autre jour, il y a eu un article dans la presse locale sur le sujet, et on constate, et c'est un constat donc qu'on fait de manière très partagée, maires ruraux, maires urbains, et on l'a vu également avec les maires de la communauté d'Aglo, on a aujourd'hui une augmentation sans précédent des incivilités en la matière. Aujourd'hui, il devient courant de balancer ses sacs poubelles dans les fossés, de venir décharger une camionnette devant la porte de la déchetterie quand la déchetterie est fermée, de venir mettre en bordure de forêt d'Épernay des dépôts sauvages. Alors, je pense qu'il est temps de réagir face à cette dégradation qui est assez récente. Il semblerait qu'elle soit liée au fait que certaines entreprises qui ramassaient notamment des déchets professionnels et qui les évacuaient autrefois vers la Malaisie et vers ces pays se soient vues aujourd'hui la porte fermée vers cet exutoire et que le renchérissement des coûts fait que un certain nombre de professionnels, enfin si tant est qu'on puisse appeler ça des professionnels, prennent l'habitude maintenant de déverser à la nuit tombée leurs déchets là où ils le peuvent. Chez nous, c'est principalement dans la plaine d'Aï, c'est en bordure de la forêt d'Épernay, c'est parfois à l'écart de la ville, c'est toujours à l'écart de la ville, c'est-à-dire que c'est jamais là où on peut être identifié. Et ça devient franchement insupportable parce que d'abord, c'est un mauvais exemple donné à d'autres personnes. Deuxièmement, on sait très bien que ces déchets appellent d'autres déchets. Quand une décharge commence à se constituer, malheureusement, d'autres personnes se croient autorisées à poursuivre en la matière. Et troisièmement, il y a parfois des atteintes graves à l'environnement. On m'a signalé des matériaux, enfin des liquides dangereux qui sont parfois versés à même les fossés, ce qui est évidemment un péril pour l'environnement et pour les nappes phréatiques. Et je voudrais proposer à la commission cadre de vie de se charger de ce dossier et de nous faire un certain nombre de propositions sur le sujet. On a déjà mis en place un arsenal de mesures. La police municipale est évidemment mobilisée. On utilise évidemment des caméras pour essayer d'identifier les contrevenants. Sachez que depuis le début de l'année, on a procédé à 16 verbalisations, dont 9 à 68 euros pour dépôt sauvage d'ordures concernant des particuliers, avec systématiquement transmission des plaintes au procureur de la République et condamnation, la plupart du temps, par le TGI. Sachant qu'en plus de la verbalisation, les contrevenants sont contraints de ramasser toutes les ordures qu'ils ont pu déposer. Alors, ce n'est pas un boulot très agréable pour nos policiers municipaux, parce qu'évidemment, il faut parfois ouvrir les sacs, éplucher le contenant pour savoir effectivement si on ne retrouve pas des factures d'entreprise ou des factures de comptabilité privée. Ils le font et je les en remercie. Et ça nous permet d'engager des poursuites. Donc cette question, encore une fois, elle tend à se généraliser. En ma qualité de président des maires de la Marne, je puis vous assurer que je suis de plus en plus sollicité sur ce dossier par d'autres élus qui s'étonnent qu'il n'y ait pas davantage de poursuites du côté du parquet. Pour autant, ce n'est pas notre cas parce que, effectivement, je peux comprendre que le parquet classe quand il ne trouve pas les coupables, parce que quand on n'a aucune trace d'un monticule de plâtre qui est déposé dans un fossé, on ne peut pas aller chercher de l'ADN et identifier quoi que ce soit. En revanche, quand on a des preuves d'une origine à peu près certaine, à savoir que quand on retrouve des éléments de comptabilité, des éléments des relevés de compte de l'entreprise, là, je pense qu'il faut impérativement qu'on sévisse et qu'on poursuive de manière systématique ces contrevenants. Alors, ce que je voulais proposer, c'était à la commission de se réunir sur le sujet, de manière à étudier des pistes avec nos services, hein, puisque nos services propriétés ont une certaine expérience en la matière, excusez-moi. Nos services de police municipale ont aussi une expertise en la matière, et je pense qu'il serait intéressant que, dans les 2 mois qui viennent, la commission puisse se réunir pour plancher un peu sur le sujet, nous faire des propositions en vue du budget 2020. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Pour qu'on puisse muscler notre dispositif. Je rappelle qu'on a aujourd'hui plus d'une vingtaine d'agents qui travaillent dans ce service, au niveau du service propreté. On a la police municipale qui est mobilisée sur le sujet, qu'on régulièrement on modernise notre équipement, nos machines, nos laveuses, etc. Donc, au niveau matériel, au niveau humain, on a ce qu'il faut. Le problème, c'est que quand, effectivement, ces dépôts sauvages sont organisés en dehors des aires de surveillance habituelles, hein, quand on est au bord des bois la nuit, ou au milieu de la plaine d'Aï, on ne peut pas évidemment mettre des caméras partout. Mais c'est un véritable problème. J'étais moi-même au mois de juillet dernier dans la plaine d'Aï avec les jardiniers de la plaine d'Aï. On a constaté un certain nombre de dépôts sauvages. Les noms sont identifiés, les noms et propriétaires des parcelles. On dépose des véhicules qui restent là pendant des années. Ces véhicules perdent de l'huile, perdent des choses comme ça. Donc je pense qu'il faut incontestablement muscler notre dispositif. Et donc je demanderai à Jonathan et à Joachim peut-être de superviser ces travaux de manière à ce qu'on ait assez vite, sur la base aussi de recherche de ce qui se fait ailleurs. Hein. Il y a des collectivités qui sont parfois innovantes en la matière. On n'ira peut-être pas jusqu'à ce qui se passe en région parisienne où certains maires prennent une benne et vont redéverser chez le particulier en question une fois qu'ils l'ont identifié. Ce n'est pas très légal. Mais pour autant, je pense qu'il faut marquer le coup parce que c'est pas admissible. On fait tous des efforts. On soutient les démarches. Il y avait samedi matin le quartier de la Villa, il y avait l'entreprise Murphy de Socar qui avait mobilisé tous ses salariés pour aller nettoyer les berges de Marne. On a eu d'autres opérations de ce type. D'un côté, on se décarcasse pour essayer de nettoyer les abords de nos terrains. De l'autre côté, on a des salopards, hein, je ne les appelle pas autrement, qui considèrent que, voilà, à la nuit tombée, tout est permis et il faut absolument remédier à ça. Donc, on en discutera, on fera un débat sur le sujet si vous le souhaitez, et puis la commission fera des propositions. J'invite tous les élus de la commission et même ceux qui n'y sont pas membres et qui voudraient se joindre à examiner les mesures à prendre. Il faut réprimer ces comportements, évidemment. Il faut sensibiliser, mais on le fait déjà beaucoup, et je pense que ces gens-là ne sont pas malheureusement sensibles à la sensibilisation. Et en tout cas, je veillerai en ce qui me concerne à ce que les plaintes déposées soient suivies des faits systématiquement, parce qu'encore une fois, on fait des efforts partout, et là où quelques individus ont décidé de ne pas en faire, ça crée parfois des dommages considérables. On a même retrouvé parfois des plaques d'amiante enterrées dans le sol au lieu de les mettre en décharge, et dans ce cas-là, c'est la collectivité qui doit assumer le coût de mise en décharge, qui est totalement injustifié. Voilà, je faisais cet aparté simplement.
Je juste rajouter, monsieur le maire, que sur les quartiers politiques de la ville, on va mettre des actions en place de prévention, d'information, c'est avec les centres sociaux, les bailleurs, parce qu'il y a un qui est vraiment concerné, c'est Bernot, et puis les habitants. Donc on va mettre vraiment des actions en place pour de la prévention, et après les sanctions s'il le faut aussi.
Très bien. Y a-t-il des questions sur le sujet? Monsieur Angers, Madame Perrin, Monsieur Lefebvre.
Oui, simplement une remarque par rapport à vos propos. Je voulais savoir si l'action envisagée est circonscrite à l'espace public ou si éventuellement elle peut être étendue à l'espace privé. Vous citiez l'exemple où vous êtes entretenu avec un certain nombre de jardiniers riverains qui peuvent être sur leur terrain à leur insu victimes de tels agissements.
Donc, ou tout simplement
quel,
sur le voisin, sur le terrain d'à côté.
On peut les raccrocher d'un point de vue juridique pour des actions qui soient mutualisées, en fait.
Alors, la présence de dépôts sauvages est interdite par la loi. Donc, même sur une propriété privée, on peut intervenir. Et en tout cas verbaliser ou mettre en demeure un particulier de se débarrasser d'un certain nombre de déchets à partir du moment où on est au stade du déchet, c'est-à-dire des véhicules empilés, l'équivalent d'une petite casse automobile, c'est évidemment condamnable. Des dépôts d'ordures diverses qui généralement attirent des rats que le voisin subit alors que le voisin il a son jardin qui est tiré à quatre épingles et qui est vraiment nickel. Ce sont les gens qui sont venus m'en parler en disant qu'eux font des efforts, et j'ai pu constater les efforts qu'ils faisaient, mais pour peu que vous ayez entre deux parcelles quelqu'un qui en a une et qui ne l'entretient pas et qui va y stocker ses poubelles, par exemple, évidemment, ça ne peut amener que des conséquences nauséabondes et désagréables. Et dans ce cas-là, on peut d'autant plus réprimer dans la plaine d'Aï qu'on est dans une plaine inondable. Et que pour le coup, stocker des déchets dans une plaine inondable, c'est comme... sur un espace sensible, hein, on a la nappe phréatique qui est en dessous, on a quand même des matériaux qui sont suspects, c'est le moins qu'on puisse dire. On sait qu'on a notamment à certains endroits où on observe des terrains qui ont été remodelés, les terrains ont été remontés de 30 ou 40 cm parce qu'on y a mis en dessous des fibres, des plaques de fibrociment, c'est-à-dire de l'amiante, ce qui est formellement interdit. Donc il faut aussi qu'on arrive à faire bouger les services de l'État sur le sujet, parce que certains constats peuvent être faits par nous-mêmes. Pour d'autres constats, il faudra qu'on fasse appel à des administrations plus spécialisées qui, eux, sont en droit de verbaliser au titre de la police de l'environnement. Hein, mais le plus flagrant, allez vous balader sur les hauteurs des côtes ouest aux abords de la forêt. C'est évidemment pas le propriétaire de la forêt. C'est dans les fossés où c'est tellement facile quand la nuit est tombée. On y va phare éteint, on balance tout dans les fossés et puis on s'en va. C'était pareil une époque dans le Mont-Bernon, beaucoup moins depuis que le Mont-Bernon a été aménagé. Encore que, si vous allez vous promener près de l'endroit de la géothermie, c'est un autre type de déchets. Vous voyez le dimanche matin, parce que j'y passe le dimanche matin, des canettes de bière partout au milieu des vignes et partout au milieu des espaces verts, des paquets de chips, on trouve des choses comme ça. Alors c'est un autre type de dépôt. Là, c'est aussi de l'incivilité. Mais ça doit être évidemment réprimé, mais le plus choquant, c'est les gens qui vont déverser littéralement des bennes ou des camionnettes ou des coffres de voitures dans la nature, pensant que pas vu, pas pris, et puis la collectivité se débrouillera avec, quoi. Donc je pense que, encore une fois, c'est un phénomène qu'on observe partout en ce moment. À l'échelle de la communauté d'agglomération, c'est assez spectaculaire, mais ce matin, j'étais donc avec une vingtaine de maires de l'agglomération de Reims, qui faisait état des mêmes difficultés. Et souvenons-nous quand même que c'est ce genre de comportement qui a conduit à la mort d'un de nos collègues maires dans le sud de la France, dans le Var, là, au mois d'août, parce qu'il a tenté de s'opposer à ce type de comportement. Alors, est-ce que ça a été délibéré ou est-ce que c'était accidentel? La justice le dira. Mais voilà, il a tenté de s'opposer à cela et il s'est heurté à quelqu'un qui, en partant, l'a percuté et il en est mort. Donc, évidemment, je ne veux pas dramatiser la question, mais... ça, c'est bien la démonstration qu'il y a probablement une faille dans l'arsenal législatif français qui fait qu'on a tendance à sous-estimer les dégâts à l'environnement et que un certain nombre de parquets ont parfois tendance à classer sans suite parce que c'est une petite affaire. C'est vrai que quatre sacs poubelles perdus sur un fossé, je me mets à la place d'un tribunal qui a géré des sujets autrement plus complexes et plus douloureux parfois, c'est effectivement insignifiant. Sauf que ça commence, enfin, les atteintes à l'environnement, elles commencent par des petites choses. C'est parfois des pots de peinture déversés ou des pots de produits polluants déversés qui font des catastrophes. Je vous rappelle que il y a une vingtaine d'années, entre 20 et 25 ans, on avait plus d'approvisionnement en eau à Épernay pendant plusieurs jours parce que un pot de peinture avait été vidé dans un puits qui donnait directement dans la nappe phréatique et qu'on avait dû pendant 4 ou 5 jours faire venir des packs d'eau et l'armée, etc., pour approvisionner la ville en eau parce qu'au départ, un geste insignifiant, vider un pot de peinture, on peut se dire que c'est pas grand-chose, sauf que ça, quand ça va directement dans la nappe, parce que c'était un ancien puits qui menait directement à la nappe, ça peut provoquer des catastrophes. Donc je pense qu'il faut qu'on durcisse le ton en la matière, de manière sans doute coordonnée avec la communauté d'agglomération. On a eu un débat l'autre jour avec les élus de la communauté d'agglomération, qui, alors, eux, ont ce désavantage par rapport à nous, c'est qu'ils n'ont pas de police municipale. Donc souvent, les maires sont seuls pour gérer ce genre de difficultés, d'où peut-être l'idée d'imaginer une brigade de l'environnement comme ça s'est fait sur certains territoires, qui seraient à la disposition des élus locaux, qui, pour certains d'entre eux, notamment dans les plus petits villages, sont totalement démunis, parce que faire une procédure, dresser un procès-verbal, constater, faire des recherches quand vous êtes tout seul, c'est très compliqué. Nous, on a la chance d'avoir une police municipale qui est très active sur le sujet et qui met les gants, les masques et tout, et va fouiller dans les ordures. Mais faut reconnaître que ce n'est pas forcément un travail très agréable. En tout cas, ça produit ses effets quand on arrive au bout de la procédure. Donc je pense que cette réflexion, elle passera également par la communauté d'agglomération, parce qu'encore une fois, le problème est évoqué par bon nombre de nos collègues. Madame Perrin et Monsieur Lefebvre.
J'aurais voulu savoir ce qu'il était envisagé de mettre en place sur la friche de l'ancienne piscine à Bernon.
Alors, il n'y a pas de rapport avec les deux sujets. Hein. Pour l'instant, aucun projet n'a été expressément formalisé. La zone a été laissée à l'état naturel pour l'instant. Moi, je pense qu'il y a des idées probablement...
Comblée avec des... Excusez-moi, monsieur le maire. J'ai eu l'occasion de le dire à certains d'entre nous. Comblée... des semi-remorques, des bennes de verre comblées. On avait été appelé un matin à 7h au mois de décembre.
On est intervenu, dans ce trou-là, hein. Non, on est intervenu suite à votre intervention, me semble-t-il, pour mettre une injonction à l'entreprise de respecter la nature des déchets qu'il mettait dans ce trou. On a refait mettre de la terre végétale dessus. Pour autant, la question de l'avenir de ce terrain est posée. C'est un terrain qui présente des caractéristiques naturelles, puisque il y a peut-être quelques déchets qui ont pu être mis, mais pour l'essentiel, ce sont des dépôts inertes. C'est de la craie qui a été notamment récupérée sur un chantier qui se situait à proximité des Pernay, qui a été remise en place, et de la terre végétale dessus. Maintenant, moi, je suis ouvert à toutes les propositions sur le quartier. Certains m'ont demandé s'il était envisageable de disposer de jardins privatifs pour que des personnes du quartier... Il y a déjà le jardin partagé, mais il y a des gens qui voudraient avoir leur petit potager à eux. La demande m'a déjà été faite. Je veux dire, pourquoi pas ? On a un espace assez important. On pourrait imaginer qu'au moins sur une bande de ce terrain, des personnes qui souhaiteraient avoir un bout de jardin pour cultiver des fruits et des légumes puissent le faire. Des espaces sportifs, me semble-t-il, on a tout ce qu'il faut sur le quartier parce qu'ils sont assez utilisés et... J'ai pas eu de demande en ce sens, mais on peut là-dessus ouvrir la réflexion. Pourquoi pas le faire dans le cadre du budget participatif ? Alors même si, pour le coup, on sera sûrement sur des budgets plus importants que les sommes prévues au titre du budget participatif, mais dans le même esprit que le budget participatif, moi, je suis ouvert à toute proposition. Ce qu'il faut, c'est que ça réponde à l'attente du plus grand nombre et que ça corresponde bien à la manière dont on imagine ce site qui est coincé entre les bâtiments du quartier de Bernon et puis le gymnase Beethoven, et qui présente, à mon avis, un potentiel en termes d'agrément pour peu qu'il soit aménagé ou modelé dans ce but-là.
Oui.
Pour répondre en partie sur cette question-là, il y a eu des projets dans le cadre du budget participatif qui sont proposés pour aménager une partie de l'espace du terrain qui y a. Et c'est plutôt la végétalisation. On a déjà des plantations d'arbres qui vont avoir lieu avec les naissances, puisque au mois de novembre, on aura le nombre de naissances de Sparnassiens et on aura quelques arbres qui seront plantés ici. On a là, dans ce qui va être annoncé, on vient de regarder, enfin, de trier les projets, il y aura des propositions de plantation de plantes mellifères, d'arbustes, etc. Après, ça ne couvre pas toute la surface de ce terrain-là. Et comme tu l'avais dit, comme on l'avait proposé, c'est... On n'a rien fait parce qu'on voulait que ce soit des habitants qui proposent de s'occuper du quartier. C'était la proposition que tu avais faite de dire, voilà, nous, on est ouverts à tous. Ces habitants qui du quartier veulent faire ce qu'ils veulent là-bas, on est prêt à regarder la question. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de grand projet, je dirais, sur ce terrain, puisque les habitants devaient être...
En même temps, on ne peut pas rogner cet espace. Je n'ai pas la surface de l'espace, non, mais ça fait bien 5000 m². Ouais. On ne peut pas le rogner par petits bouts, parce qu'après, ça n'aura pas forcément de sens. Ce qui serait intéressant, c'est de collecter les idées des uns et des autres et de voir comment, une fois assemblé, à quoi ça peut ressembler. Quoi. Mais il y a sûrement des idées dans la tête des uns et des autres. Marc Lefebvre. C'était fini, Madame Perrin ?
Oui.
Oui, donc, concernant la délibération... Je crois qu'il faut qu'il y ait davantage un lien permanent et durable entre le bailleur social et les habitants. On le voit quand on insiste au conseil de quartier, c'est toujours la même répétition et je crois que la municipalité ou les élus qui sont là viennent un petit peu faire les intermédiaires. Donc, Plurial Novilia doit faire preuve davantage d'être à l'écoute et davantage faire preuve de réactivité. Je crois que c'est indispensable. Qu'on n'entende plus, au bout de 3 mois, à chaque comité de quartier, il y a des rats, il y a des ordures, il y a des incivilités, etc.
Et puis, à notre... Alors je précise quand même que les problèmes qu'on rencontre de ce type à la réunion du conseil de quartier viennent souvent de l'attitude d'autres locataires. Quand il y a des rats, c'est parce qu'il y a des gens qui laissent leurs ordures, d'abord qui balancent parfois les ordures par la fenêtre, ce qui m'a toujours un peu surpris, qui stockent des matières attirant les rats à certains endroits, qui du coup provoquent la présence de rats et du coup la colère d'un certain nombre de locataires, que je comprends parfaitement. Mais très souvent, à l'origine d'un problème, il y a malheureusement le comportement d'autres locataires. Parmi les locataires, il y a des gens qui sont remarquables, rigoureux, disciplinés, mais on sait très bien qu'on a aussi de temps en temps des gens qui font un peu n'importe quoi et qui, sans s'en rendre compte, vont pénaliser la vie de leurs voisins par le fait de conserver dans des garages ou ailleurs des matières qui attirent ces bestioles et qui font qu'elles arrivent très rapidement. Je vous ai coupé.
Le premier point, agir auprès du bailleur social pour qu'il change un petit peu sa position. Et puis, deuxième point, peut-être à notre niveau, je pense qu'il y a toujours les ambassadrices, les médiatrices. Il faut qu'on davantage les former et aussi davantage les encadrer. Par exemple, elles sont présentées une fois au réunion de comité de quartier. Elles devraient venir prendre la parole, etc. On ne les voit plus.
Non, elles font des rapports de leur travail qui remontent à nos services.
Puisqu'elles aient davantage de...
Elles sont là.
Bon, pas souvent.
Elles sont dans le public et le résultat de leur travail, c'est-à-dire le travail de médiation qu'elles font, elles remontent de l'information.
Elles devraient intervenir davantage, je pense.
S'exprimer peut-être, moi je ne suis pas contre du tout, mais c'est vrai qu'elles font des rapports.
Mieux les encadrer et les voir plus régulièrement. Et puis, dernière chose, je profite de ce qu'on parle de Bernon. Il y a 3 mois, j'ai posé la question concernant la supérette. On était sur le point de conclure, ou avec Apareca. Et puis, le deuxième point, il y a aussi un autre local qui est libre. Donc, vous pouvez faire un petit point rapide là-dessus.
Le local qui est libre, vous pensez celui qui est plus haut, à côté de la pharmacie?
À côté de la pharmacie du coffer.
Ouais. Alors, je n'ai pas d'informations là-dessus. Je dois dire que je n'ai pas eu d'informations de l'EPARECA depuis un moment, parce que c'est l'EPARECA qui gère ces logements. Ils nous avaient présenté des CV de...
On avait un porteur de projet qui était identifié, mais on n'a plus de nouvelles. Donc là, j'essaie de les joindre.
Bon, on va recontacter l'EPARECA. On vous fera un petit mot pour vous expliquer où ils en sont dans leur recherche. Parce qu'effectivement, ce sont eux les propriétaires. En général, quand ils ont des dossiers, ils nous soumettent les dossiers pour qu'on examine la viabilité du projet. On avait eu un projet il y a quelques mois, c'était avant les vacances. On n'a pas de nouvelles depuis. Alors, c'est peut-être en bonne voie, mais c'est peut-être aussi abandonné, cette piste. Donc, je vous le dirai dès qu'on aura l'information. Oui.
Je vais revenir un petit peu sur votre propos concernant ces attitudes, enfin les déchets qu'on peut trouver, les dépôts sauvages, globalement. Juste une remarque, c'est que ces 2-3 dernières années sont parus des articles, notamment dans la Gazette des communes, sur la tarification incitative. Partout, dans les 3 ou 4 endroits qui étaient cités dans ces articles, qu'on pourrait retrouver, j'en ai conservé certains, à chaque fois, on a eu une recrudescence de problèmes liés à cette tarification incitative, parce qu'il y a des individus, bon, c'est pas péjoratif, mais des personnes, en ville comme en campagne, qui vont mettre leur poubelle dans la poubelle du voisin, ou qui vont, comme vous dites, déposer un soir nuitamment dans des fossés. Et ça ne règle pas le problème fondamental, enfin essentiel, posé par la gestion des déchets plus globalement, au niveau des intercos, des agglos, etc. Mais c'est un des dommages, je dirais, collatéral de ce type de démarche.
Je suis d'accord
et pas d'accord. Je sais que le débat aura lieu à la
Non, je suis d'accord et pas d'accord parce que, un, on n'a pas de tarification incitative aujourd'hui, et pour autant, on est tous victimes de ce phénomène. Hein. Donc, ce n'est pas forcément lié. Ce que nous ont dit les territoires qu'on a pu interroger, que ce soit en Alsace ou en Vendée notamment, c'est qu'il peut y avoir au début de la démarche une augmentation des décharges sauvages. Mais ça se régule très vite, d'autant plus que ces territoires ont généralement mis à l'appui de leur nouvelle politique des moyens de surveillance et des moyens de répression plus importants, ce qui fait que ça se régule très vite. Donc la tarification incitative, c'est la piste vers laquelle on va aller. Ce sera présenté au rapport de la communauté d'agglomération du mois de novembre prochain. Pourquoi on va y aller ? D'abord parce que si on n'y va pas, la flambée du coût des déchets va frapper notre territoire. Il faut savoir que le coût de mise en décharge va augmenter considérablement. Le gouvernement a décidé, pour inciter les communes et les communautés à venir vers la tarification incitative, à trier davantage, à augmenter les coûts de mise en décharge, ce qui est plutôt une bonne politique. Parce que quelque part, si on veut éviter que les coûts grimpent, il va falloir faire de plus en plus d'efforts. Nos équipes étaient la semaine dernière du côté de Libourne, où ils ont constaté qu'ils avaient à la fois des performances moins bonnes que les nôtres, mais des ambitions plus fortes aujourd'hui. Et donc, on se doit, nous, d'avoir... Alors, la tarification incitative, ce n'est pas forcément ce que vous évoquiez à l'instant, à savoir les gens qui vont porter la poubelle dans celle du voisin, ça a existé. Mais l'idée qu'on poursuit plutôt, nous, c'est... de faire payer les habitants au nombre de levées et non pas au poids. Ça veut dire que si vous triez consciencieusement vos déchets et si on vous offre de nouvelles solutions de tri, aujourd'hui on a 22 casiers à tri dans nos déchetteries, demain on passera à 30 ou 40. Donc si demain on offre des solutions de tri, normalement le volume des poubelles doit diminuer fortement. On a fait une expérience de caractérisation des contenus de poubelles dans des maisons individuelles. On constate que 61% du contenu de la poubelle grise devrait être normalement trié. Ce qui veut dire qu'on divise quasiment par on diminue des deux tiers le montant qui va vers la poubelle ordures ménagères. Mais tout ça, ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Il faut mener une politique d'équipement nouveau. Il faut des bacs pucés qui, évidemment, vont pouvoir, à chaque fois que la levée va être faite par le camion, identifier qu'on lève la poubelle de Monsieur X ou de Madame Y, de manière à ce qu'on sache exactement combien de fois par an on soulève sa poubelle. On a pu discuter lors du séminaire qu'on a fait sur le sujet avec des élus d'Alsace qui nous disait que pour certains d'entre eux, ils sortaient leur poubelle une fois toutes les 6 semaines. Parce que finalement, plus on trie, moins on a à mettre dans la poubelle grise. Et finalement, on attend que la poubelle grise soit pleine pour la mettre dehors. Et du coup, ça change beaucoup les pratiques. On n'y viendra pas du jour au lendemain. Mettre en place une politique comme celle-ci, c'est à peu près 3 ans de boulot. Si on démarre en 2020, ça veut dire qu'en 2022-2023, on sera prêt, on aura tous les équipements et on devrait normalement voir chuter les tonnages. Actuellement, à l'échelle de la communauté d'agglomération, les ordures ménagères résiduelles, c'est 229 kilos par habitant. On est allé voir des territoires où ils sont descendus à 90 kilos par... Alors, ils l'ont fait. Ces résultats, on les atteint au bout de 5 ans, 6 ans. C'est une action parce qu'il faut qu'évidemment les mentalités changent, il faut que les gens comprennent le nouveau système, il faut que les gens se plient à la règle, il faut que les gens comprennent leur avantage, que deviennent eux-mêmes les ambassadeurs de leurs voisins et ainsi de suite, pour qu'au fur et à mesure, ça prenne. Mais c'est une piste qui est prônée par les pouvoirs publics, tout simplement parce que, évidemment, on a tous en tête ces déchets plastiques qu'on voit partout dans les océans aujourd'hui, mais ça commence chez nous, parce qu'ils partent généralement de chez nous, ces déchets plastiques. Réduire la quantité de déchets plastiques, réduire la quantité d'emballage qui est beaucoup trop importante aujourd'hui. Faites l'expérience quand vous allez au supermarché, la première chose que vous commencez par faire, c'est pratiquement remplir une demi-poubelle d'emballage qui ne servent à rien pour tenir les yaourts ou autre chose comme ça, ou les bouteilles. Oui, non, mais ça nous incombe. Voilà, ça c'est pas nous. Ça c'est pas nous. Ça c'est les. Non, mais ça c'est au niveau national, si vous voulez. Je veux dire par là que. Oui. Non, mais j'ai bien compris.
C'était simplement ça, mon propos.
Non, mais je veux vous rassurer là-dessus.
Débat sur...
Oui. Non, je veux vous rassurer là-dessus parce que toutes les expériences qu'on a pu suivre depuis 2 ans, et on est allé se déplacer un peu partout sur le sujet, nous ont convaincus que c'était peut-être un risque sur les premiers mois, mais qu'ensuite les choses se régulent assez vite. Et qu'il ne faut surtout pas, je sais que ce n'est pas votre intention, mais il ne faut surtout pas se réfugier derrière cet argument pour dire on n'y va pas. Je pense qu'il faut y aller avec détermination, il faudra y aller avec des moyens juridiques, des moyens techniques et de la fermeté, et on y arrivera. En tout cas, ce sera la délibération qui sera proposée en novembre prochain. D'autres questions ?
Oui, monsieur le maire, je voudrais revenir simplement sur la réflexion de William Richard tout à l'heure sur le fait que l'emplacement de la piscine de Bernon avait été comblé un temps par des matériaux non conformes. Je voulais savoir quelle était notre relation, nous, collectivité, à l'entreprise, notamment par le biais des marchés publics, où normalement, je dirais, la filière déchets peut être clairement définie dans le marché. Quels moyens on se donne au niveau de notre collectivité pour aller y voir clair dans la bonne exécution de cette filière, lorsqu'il y a une déconstruction, et avoir la certitude que tous les matériaux sont bien orientés comme ils doivent l'être. Est-ce que c'est fait? Est-ce qu'on peut pratiquer peut-être des investigations sous forme de sondages dans ces domaines-là? Je pense que là, si on veut s'engager sur un terrain de la répression que je comprends tout à fait, ça veut dire que d'un autre côté, nous, collectivités, on doit être irréprochables. Et au travers de notre relation avec les gens qui travaillent avec nous, il faut que le message soit clairement passé, quitte à s'il y avait des défaillances de la part d'entreprises qui travaillent avec la collectivité, de s'en servir comme référence pour demain les rejeter sur un éventuel marché.
Alors, je pense que lorsque la commission saisira du projet, je demanderai à Frédéric Girardin de venir expliquer comment sont faits nos marchés avec les entreprises qui font notamment de la déconstruction. Parce que, évidemment, si c'est pour démolir et puis envoyer nos déchets sur la commune voisine ou ailleurs, ça ne peut pas marcher. Ils ont des obligations légales et réglementaires. Ils déclarent les lieux de mise en décharge de leurs différents produits. Tout cela est trié, parce que s'il y a un peu, quand on détruit une maison ancienne à Épernay et qu'il y a un peu d'amiante dedans, évidemment, tout ça part dans des décharges contrôlées. Et on fait en sorte de veiller à ce que toutes les entreprises qui travaillent pour nous et qui font de la déconstruction d'une manière générale... le fasse de manière convenable et qu'on ne renvoie pas la difficulté chez d'autres demain. Mais Frédéric Girardin pourra faire un point de précision là-dessus. De même, sur nos chantiers, quand on construit, par exemple, sur le musée, il y a un tri qui est fait des déchets en sortie, parce que les entreprises sont aussi mobilisées sur le fait qu'un certain nombre des déchets de chantier sont évidemment recyclables. Et sont ensuite, quand c'est bien trié, c'est revendu à d'autres entreprises. Donc, quelque part, ça permet aussi d'amortir les coûts pour ces entreprises. Bien, on s'est un petit peu évadé du rapport initial, mais étant donné qu'il était beaucoup question de cadre de vie dans ce rapport concernant la gestion urbaine et sociale de proximité, je tenais à faire cette mise au point parce qu'on a en ce moment des demandes nombreuses. Je précise également qu'on a mis en place depuis... le début de l'été, une application mobile qui s'appelle Tell My City. Cette application permet aux Sparnassiens qui observent des pots sauvages de les photographier et d'envoyer la photo instantanément à nos services, ce qui nous permet de réagir plus vite. Cette application permet également de faire des propositions. Donc si par exemple, et on le fera sûrement, si des Sparnassiens ont des solutions à trouver sur des décharges qui sont parfois près de chez eux, par cette application, ils peuvent faire des propositions qui seront évidemment collectées et versées auprès de la commission qui travaillera sur le sujet dans les semaines qui viennent. Sur ce rapport, avis contraire, abstention, le rapport est adopté. Nous poursuivons avec le rapport suivant concernant le recrutement d'un écrivain public numérique. Je crois que c'est Catherine Crozat qui présente ce rapport.
Non, c'est
Catherine.
Oui.
Vas-y.
Merci, Monsieur le Maire. Donc, pour pallier à la fracture numérique grandissante, la Ville a décidé de s'engager avec le département dans le dispositif dit écrivain public numérique. Aussi, je vous invite à autoriser Monsieur le Maire à recruter un agent et à signer la convention avec le département afin de fixer les engagements de chacun. C'est donc un agent qui sera recruté pour un an dans la convention, un an renouvelable deux fois, donc 3 ans, et le département prend en charge à 50%.
Merci. L'idée, effectivement, c'est, on constate aujourd'hui avec Le développement des usages numériques, il y a un certain nombre de Français, alors certains disent 11% des Français, d'autres 17% des Français, qui sont éloignés du numérique pour des raisons diverses, des personnes âgées, des personnes qui n'ont jamais eu l'occasion d'avoir un ordinateur entre les mains, ou des personnes tout simplement qui peuvent avoir des difficultés de lecture ou d'écriture, et qu'il y a un travail à faire sur l'inclusion numérique. Et l'idée, nous l'avions souhaité depuis un certain temps, elle est venue sous la forme d'une proposition du département, qui nous proposait au départ de partager un emploi avec la ville de Châlons sur le sujet. Ça nous apparaissait assez compliqué d'avoir quelqu'un qui fasse un mi-temps sur Épernay, un mi-temps sur Châlons. Et compte tenu du besoin, on a préféré une subvention du département correspondant à la moitié d'un poste. Et on va, nous, recruter pour l'autre moitié quelqu'un, de manière à ce qu'on ait quelqu'un à temps plein à Épernay. Alors, le terme, c'est écrivain numérique public. Ça fait référence, évidemment, aux anciens écrivains publics. Cette fois-ci, c'est simplement pour aider les particuliers qui sont confrontés à des démarches diverses par le numérique. Je rappelle également qu'on mène des actions dans nos médiathèques, notamment pour favoriser l'inclusion numérique, qui est un vrai défi. Il y a quelques associations également qui font ce travail, et leur travail est à saluer parce que c'est compliqué. C'est déjà pas facile pour nous, parfois, de faire nos démarches sur Internet, moi le premier, bien que j'utilise l'ordinateur tous les jours. Mais mettez-vous à la place de quelqu'un qui ne sait pas utiliser un ordinateur, ça devient un véritable labyrinthe. Et il y a des gens qui baissent les bras, alors même qu'il y a des droits derrière qui leur... Allez sur votre compte CAF, quand vous ne savez pas vous servir d'un ordinateur, ça veut dire que vous avez toutes les chances de perdre vos prestations parce que vous n'allez pas forcément cliquer sur la bonne case, vous n'allez pas forcément déclarer les bonnes choses ou scanner les bons documents. Et ça peut parfois être très compliqué. Donc je pense que cet écrivain numérique aura du travail. Et on suivra attentivement les problèmes auxquels il sera confronté. Des questions sur le sujet ? Madame Perrin ?
Oui, je suis heureuse de constater que le détricotage qu'on fait des services publics de proximité, on se rend enfin compte que les gens ont quand même besoin d'être soutenus, quoi.
Bien sûr, mais on le fait à longueur d'année, madame, dans tous les domaines. D'autres... Monsieur Angers ?
Oui, simplement pour conforter le propos d'Hélène Perrin. Moi, je trouve que dans certains domaines, c'est aussi une forme de décharge de l'État aussi vers les collectivités. Quand on voit un certain nombre de procédures où, dans le passé, les services de l'État accompagnaient les gens, je pense par exemple aux cartes grises. J'ai constaté récemment qu'il y avait des privés qui avaient installé des officines pour aider les gens à obtenir une carte grise. Et ça ne concerne pas, malheureusement, que les gens qui sont en défaillance par rapport au numérique, parce que les parcours pour mener à bien, je dirais, le parcours pour avoir le document, c'est quelque chose de vraiment infernal. On a mis des procédures très, très lourdes. Et au bout du compte, en face, on a des gens qui sont effectivement démunis. Et aujourd'hui... Ce sont les collectivités qui sont, parce que la proximité est là, qui sont quand même obligées de s'engager sur des terrains pour venir compenser, en quelque sorte, un défaut d'approche de l'État dans ces domaines.
Alors, ça peut se produire s'agissant de l'État, s'agissant des services municipaux. Il y a beaucoup de gens qui viennent vers nous, et nos agents sont des médiateurs, dans le sens où, quand on tombe sur quelqu'un qui a besoin d'un extrait de naissance, d'une fiche d'état civil, etc., c'est évidemment totalement gratuit. Ce qui n'est pas le cas quand vous passez par Internet. Faites l'expérience. Demandez une fiche d'état civil sur Internet et on va souvent vous orienter vers des sites commerciaux qui vendent à 11 ou 12 euros un document qui est gratuit dans votre mairie. Mais voilà, on ne peut pas empêcher sur Internet des gens d'essayer de faire du commerce avec des choses qui normalement ne justifient pas un acte de commerce. J'ai pu le constater parce que des gens sont venus me voir parfois avec des papiers qu'ils avaient achetés. Ils se sont rendus compte après coup que c'était payant, mais ils ont cliqué sur la mauvaise case, alors que ce sont des documents qu'on a en mairie, gratuitement. Donc il faut veiller à ça, mais c'est vrai que la dématérialisation peut avoir cet inconvénient, c'est qu'il y a des petits malins qui, sous prétexte de rendre service aux gens, en fait, facturent un service qui est normalement gratuit. Donc il faut absolument combattre ce genre de choses. Oui.
Oui, c'est juste un commentaire pour qui va tout à fait dans votre sens. En ce qui concerne les gens qui sont en difficulté par rapport à Internet, je me souviens, il y a 2 ans à peu près ici, j'avais fait la remarque, parce qu'on votait une délib concernant la dématérialisation, etc. Et je crois que le défenseur des droits de l'homme, ou des droits tout court, hein, je crois, pardon, M. Toubon, l'an passé, Défenseur des droits, M. Toubon, a sorti un rapport dans lequel il faisait état de 23-27% de Français qui étaient en difficulté pour pouvoir appréhender ça. C'est-à-dire, en fait, il y a une fracture, non seulement elle est sociale, mais une fracture numérique. Et par rapport aux services municipaux dont vous faisiez état à l'instant, et on peut se féliciter, parce que moi-même, j'ai eu les utiliser il n'y a pas très longtemps, concernant le vote pour le référendum concernant la privatisation des aéroports de Paris, et les personnes qui étaient, les personnels qui étaient, qui sont, pardon...
À l'annexe.
Ah,
l'accueil, d'accord.
À la mairie annexe. Impec. Non, je le dis comme ça, c'est pas... voilà, et donc on peut se faire... Vous parlez du rôle de médiateur quelque part, et là, je leur ai demandé, machin, etc. Moi-même, chez moi, ça bloquait à chaque fois, parce que j'arrive à peu près à m'en servir, quand même. Mais je voulais voir comment ça fonctionnait ici, à cet endroit, et c'est très bien. Très bien. Donc,
je leur transmettrai vos félicitations. Bien, sur ce rapport, avis contraire, abstention, le rapport est adopté. Nous poursuivons avec le rapport 4.1, Christian Demongin.
Bien, monsieur le maire, les Amis de la musique, vous le savez, forment une association déjà très ancienne, 1926. Mais comme avec la plupart des associations ou de nombreuses associations, nous sommes en relation conventionnelle et depuis 2006, nous avons une convention avec cette association. Mais celle-ci, renouvelée déjà, arrive à échéance le 14 octobre. Donc je vous propose d'approuver les termes de la nouvelle convention d'objectifs et de moyens, de droits et de devoirs, à intervenir avec cette association à compter du 15 octobre prochain. Voilà.
Merci. Des questions ? Pas d'opposition, pas d'abstention. Le rapport est adopté. On poursuit avec le rapport 4.2. Toujours Christian.
Alors, comme cela nous est déjà arrivé, et nous nous en réjouissons, il s'agit de conventions de mécénat. Nous allons regarder les 4.2 et 4.3, des conventions de mécénat pour le musée. Alors, 4.2, avec la société Sparflex France, qui s'engage à verser la somme de 25 000 euros en numéraire, directement auprès de la ville d'Épernay. La société Les Grains d'Argent, qui s'engage, elle, à verser 5 000 euros, également en numéraire et directement auprès de la ville d'Épernay. Et le 4.3 concerne le Crédit Agricole, qui s'engage à verser 50 000 euros, avec une parité entre la fondation du Crédit Agricole Nord-Est et celle du Crédit Agricole Pays de France. Voilà.
Merci. Des questions ? Pas de questions, pas d'opposition. Oui, Marc ?
C'est une question annexe concernant le musée. Donc, on m'a répondu partiellement en commission, mais donc je n'ai pas été satisfait complètement de la réponse. Donc, je repose la question.
Je ne suis pas sûr de pouvoir faire mieux.
Comment ?
Je ne suis pas sûr de pouvoir faire mieux.
Oh, le maire, c'est tout. Ouais. Donc, la ville d'Épernay a-t-elle effectué des prêts au lycée de au musée de Saint-Germain-en-Laye, et a-t-elle récupéré ce qu'elle avait prêté? Ce qu'on a dit à l'époque, c'est qu'il y avait beaucoup de choses d'Épernay qui étaient à Saint-Germain. Bon. Deuxième question, y a-t-il actuellement des œuvres ou des objets de sortie? Et comment procédez-vous concrètement lorsque vous sortez un objet? Qui décide? Y a-t-il un bon de sortie, un bon de rentrée, etc. Voilà déjà deux questions, j'en reposerai ensuite.
Alors, s'agissant des rapports avec le Musée national de Saint-Germain, c'est le contraire. C'est-à-dire que c'est le Musée national de Saint-Germain qui nous confie des pièces, parce que c'est le musée de référence en France. Épernay est la deuxième collection de France derrière le Musée de Saint-Germain. Donc, les relations qu'on a avec eux vont plutôt dans l'autre sens. C'est-à-dire que c'est le Musée de Saint-Germain qui nous met à disposition des vestiges ou des œuvres. La deuxième question, c'était comment ça se passe ? Alors, moi, je sais que je signe régulièrement, et sur proposition du conservateur du musée, quand on prête un tableau, une collection, on signe un accord, une convention avec la ville dans laquelle qui est généralement propriétaire du musée dans lequel va cette œuvre, pour mettre à disposition cette œuvre. Il y a une convention, on pourrait vous passer un modèle, où on s'assure bien effectivement de l'assurance, du transport, de manière... Et la date est mentionnée, que l'œuvre est prêtée de telle date à telle date.
Donc il y en a, dans les décisions du maire ce soir, il y en a une, hein, je crois que c'est la décision numéro 19. Donc je vais être plus précis maintenant... concernant deux prêts ou deux, oui, des prêts, si on peut appeler ça, un pressoir prêté à M. Launois depuis pas mal de temps, et pour combien de temps? Quelle est la modalité? Et je ne l'ai pas vu dans les décisions du maire. Et concernant le deuxième prêt à long terme, le tableau du martyr de Saint-Christophe, dont nous avons payé la restauration en 2010 pour 51 000 euros. Donc je crois, on m'a dit qu'on l'a prêté à Chaland parce qu'on n'avait pas de place. Et c'est bien dommage qu'une telle œuvre, on a investi 51 000 euros pour la restaurer, de la mettre à Chaland alors qu'actuellement, on est en train de réhabiliter le musée. Ça me paraît assez décalé.
Non. Elle est à Chaland précisément parce qu'on ne peut pas l'exposer à Épernay. J'ai été moi-même, le jour où elle a été exposée à Chaland, j'étais à Chaland. Invité par le maire de Chaland qui voulait remercier la ville d'Épernay. Donc il est en dépôt provisoire là-bas. Il a vocation à revenir et notamment à aller au musée, puisque c'est une œuvre qui appartient au musée d'Épernay. De même qu'il y a dans mon bureau un tableau assez célèbre, le siège de Rhodes par les Turcs, qui va, dès que le musée sera ouvert, partir au musée, où il sera enfin visible par tout le monde, parce que quand on a un musée fermé, y mettre des œuvres dedans, ils ne peuvent que prendre la poussière et s'abîmer. Demain, ces œuvres seront stockées au musée en parfaite condition, d'où le travail de restauration qui a été fait. Alors parfois, on a des œuvres qui partent. Le tableau qui est dans mon bureau est parti aux Invalides il y a un peu plus d'un an, pour une exposition temporaire aux Invalides. Mais ces œuvres, elles voyagent, parce que j'allais dire, on a aussi le devoir de les ouvrir à d'autres personnes, mais elles restent propriété de la ville et il n'y a aucune pièce qui part du musée sans qu'il y ait un acte administratif à l'appui, engageant notre collectivité à l'égard de celle qui va accueillir les œuvres, ou dans le sens inverse, quand nous accueillons des œuvres, évidemment, vous pensez bien que le Musée national de Saint-Germain ne nous prête pas des œuvres comme ça sur le coin d'une table. Il y a une convention, il y a des accords de passé.
Concernant le particulier, on lui a prêté un pressoir et je n'ai jamais vu de décision du maire ni de convention à propos de ce prêt ou ce don, puisqu'il est installé de manière définitive.
Lequel? Le martyr de Saint-Christophe, ouais,
d'une part, et puis alors, d'autre part, le pressoir. Il y a bien un pressoir chez monsieur, mis à la disposition de monsieur Launois.
C'est possible, mais il reste propriété de la ville d'Épernay, et peut-être qu'il reviendra.
Il y a dû avoir un prêt, il y a dû avoir quelqu'un
bien
qui
sûr,
a décidé.
Bien sûr, oui, mais ça ne date pas d'aujourd'hui.
Si, ça date d'il y a un an peut-être, ou moins.
Ah, ça, j'en sais rien. Je vérifierai, puis je vous dirai l'information, mais je ne le sais pas, sincèrement. Donc, j'ai pas de lien de particulier avec M. Launois, qui a un très beau musée.
C'est pas vieux.
C'est possible, mais je vous dirai quand j'aurai l'information. Par ailleurs, le martyr Saint-Christophe est un bien de l'État qui a été prêté à la ville d'Épernay et qui est prêté par la ville d'Épernay à la ville de Chaland en attendant de le récupérer pour le musée.
Oui. Hein, donc, il n'y a pas eu de convention, en fait.
Si, forcément. Un bien de l'État, oui. Il y a toujours une convention.
Toujours des conventions.
Ne pensez pas une seconde et ne laissez pas filtrer l'idée que les œuvres se baladeraient comme ça sans contrôle. Elles sont répertoriées et elles font l'objet d'actes juridiques, ne serait-ce que pour le transport. Oui, mais c'était pas du tout là-dessus, monsieur.
Pas là-dessus, mais concernant l'inventaire, la comptabilité.
Non, mais là, c'était l'inventaire du nombre de chaises qu'on avait au premier étage. Bon, c'est pas la même chose.
Regardez, pressoir prêté à un particulier, il n'y a pas eu de convention. J'en suis sûr.
Bon, on verra ça, mais je vous le dirai, de toute manière. Pas d'autres questions? Avis contraire? Abstention? Le rapport est adopté. Nous passons au rapport 4.4. Christian.
Eh bien, puisque nous parlons du musée, continuons. L'ouverture étant prévue, vous le savez, février 2019, bref, il faut anticiper... 2020, pardon, oui. Il faut anticiper son ouverture et en particulier prévoir les tarifs. Donc, La délibération que je vous propose, c'est de voir les horaires et les tarifs applicables. Alors, anticiper pourquoi ? Mais parce qu'il faudra faire les panneaux de tarification pour accueillir le public, etc., etc., les brochures, bref. Donc, ce soir, la délibération concerne ces horaires et ces tarifs avec toutes les modalités et les diverses catégories.
Alors, évidemment, il peut y avoir des exceptions à ces règles. Hein. Il peut y avoir des moments un peu exceptionnels dans la vie du musée, mais les tarifs qui figurent là et les horaires d'ouverture sont les heures d'ouverture au grand public. Il peut tout à fait y avoir un événement particulier à l'occasion d'un événement quelconque. Enfin, on peut imaginer peut-être qu'au niveau des habits de lumière ou autre, il y ait des nocturnes qui soient organisées, mais ça, ce sera fait au coup par coup et ça ne... Ça dérogera en toute régularité par rapport aux tarifs qui sont présentés aujourd'hui. Je rappelle aussi, parce que c'est important de savoir, que les tarifs incluent l'audioguide, qui sera important, puisque à terme, on aura la visite du musée en 10 langues différentes. Hein, donc ça va permettre à de nombreuses nationalités de venir dans ce musée et de pouvoir comprendre l'histoire de la Champagne et du Champagne comme s'ils étaient chez eux, parce qu'on aura des traductions, y compris en chinois et en coréen. Donc, ça laisse quand même un potentiel important en la matière. Oui, il y a une question, non ? Je vous ai vu.
Une question, hein, c'est, ou des propositions plutôt. Hein. Bon, je veux dire que je fréquente assez de musées, et donc il y a quelques points d'interrogation. J'en ai déjà noté lors de la commission. Premièrement, l'audioguide. Dans les musées, en principe, c'est un euro ou 2 euros, mais c'est jamais gratuit parce qu'il faut responsabiliser les gens. Il faut donner une carte d'identité et il faut payer quelque chose. Donc,
pour l'audioguide ?
Pour l'audioguide, partout.
La carte d'identité sans payer l'audioguide. Ah, bon. Et pour le récupérer, on pourra avoir
un système de sécurité, donc le dépôt de la carte d'identité ou du passeport. Ce n'est pas pour ça qu'il faut payer un supplément.
Non, puis généralement, le parcours du musée est tel que... je sais que je suis allé à la Cité du vin de Bordeaux il n'y a pas très longtemps. Le parcours est fait que quand vous sortez, vous passez forcément devant la personne qui récupère les audioguides. Donc vous en avez un, on vous équipe au début de la visite, et à la fin de la visite, il y a une personne qui récupère tous les audioguides, qui les recharge et qui les ramène ensuite au départ. Donc il y a un système qui est prévu comme ça pour éviter que, évidemment, on n'a aucun intérêt à ce que les audioguides disparaissent dans la nature.
Bon, ce que plusieurs ont critiqué en commission, c'est le prix de location des salles. Hein, par exemple, je prends la salle Pavillon Ouest, 950 euros. On va, donc, ça comprend la location, le personnel d'accueil et de sécurité, l'agencement des espaces, le mobilier, le matériel technique. Donc, 950 euros, c'est rien pour une location comme ça d'un espace réhabilité, d'un espace quand même assez prestigieux. Troisième point, l'ouverture du parc en octobre, c'est un détail, mais ouvrir le parc en octobre jusqu'à 9h du soir, 21h. Bon, à 21h, il y a longtemps qu'il fait nuit en octobre. Je pense que 20h, ce serait plus raisonnable. Quatrième proposition, l'ouverture à 10h30. Bon, il y a peu de musées qui ouvrent à 10h30. C'est 10h, 10h midi, hein, 10h30. Bon, on n'est pas, les gens n'ont pas cette habitude. Et puis, oui, c'est à peu près tout.
Je crois qu'on s'est calé sur ce dernier point. Je crois qu'on s'est calé.
Et puis, quand on ferme le musée, on ferme le musée l'hiver, donc 14h, 17h30, et on ferme les salles à partir de 16h30. Il n'y a pas besoin d'une heure pour faire évacuer les gens en une demi-heure, et même c'est parfois 10 minutes dans l'hémicycle.
Non, mais je ne dis pas qu'il n'y aura pas des ajustements.
Hein. Mais autant les faire dès le départ.
Non, mais il faut... Alors quoi ? Je suis assez d'accord sur l'histoire du mois d'octobre. Au passé 20h, il fait noir, de toute façon, il suffit de le voir à ce moment. Mais c'est les horaires du parc.
Je ne sais pas où les exemples ont été pris, parce que je ne retrouve pas ça. Et je vais encore consulter des guides aujourd'hui. Et je suis allé dans 4 musées ce week-end. Je n'ai pas vu des choses comme ça.
Bon, on va regarder les choses attentivement. C'est des petits ajustements qui interviendront ou pas selon... vous savez, quand on ouvre un musée, le touriste, on ne connaît pas forcément ses habitudes. Si on a mis 10h30 le matin, c'est parce que c'est l'ouverture des caves à Épernay, c'est 10h30. Et qu'en règle générale, s'ils se sont mis à 10h30, c'est qu'il n'y a pas grand monde entre 10h et 10h15. En même temps, la demi-heure qu'on gratte là, on va pouvoir la remettre à un autre moment de la journée où là, on est sûr d'avoir du monde. Donc il faut aussi qu'on gère avec le tableau du personnel, parce qu'on a un personnel à gérer, on sait qu'on aura des horaires d'affluence et qu'on essaie de caler la présence d'un maximum d'agents au moment le plus opportun. Monsieur Angers ?
Oui, simplement, par rapport à ces tarifs, je suppose qu'à l'avenir, ces tarifs, de toute manière, seront reproposés au conseil municipal au sein de la litanie de tous les autres tarifs municipaux qui sont proposés par ailleurs. Donc c'est quelque chose qui sera renouvelé au vote chaque année à partir de 2021, par définition. Moi, j'ai une remarque ou une interrogation sur les tarifs réduits. Donc il y a un certain nombre de tarifs réduits qu'on a l'habitude de voir effectivement dans d'autres musées, pour les étudiants, pour les gens en situation sociale délicate, de familles nombreuses, etc. Je vois Épernay Patrimoine. Donc je suppose que Épernay Patrimoine a fait un travail exceptionnel pour le musée, mais ne risque-t-on pas à engager un tarif réduit vers une association demain, de voir d'autres associations à activité culturelle venir solliciter également une tarification réduite? Est-ce qu'il ne risque pas d'y avoir une forme d'entrisme et un problème d'équité par rapport à d'autres qui pourraient être demandeurs?
Je crois que si ça a été proposé pour Épernay Patrimoine, c'est parce que les membres d'Épernay Patrimoine font des recherches et des conférences ou des visites guidées à caractère bénévole. Et donc, en contrepartie de leur investissement dans la vie du patrimoine local, on a accordé aux membres de l'association... bon, si maintenant, il y avait des dérives et que demain, on a 300 personnes qui se prétendent être membres d'Épernay Patrimoine...
Je ne voyais pas... Ma question n'était pas ciblée. C'est par rapport à d'autres associations qui auraient un intérêt culturel notoire avec le musée, qui pourraient se prévaloir ou faire valoir une iniquité d'adaptation dans ce domaine.
Écoutez, si la question se pose, on réexaminera la question, mais je pense d'abord en matière de patrimoine local, ce n'est pas une association culturelle, celle-là, elle est bien dédiée au patrimoine, et à ma connaissance, elle est la seule. Effectivement, si on avait donné cet avantage à une association culturelle, toutes les autres auraient pu prétendre. Mais c'est bien parce que Épernay Patrimoine fait des travaux de recherche, d'animation, de guides bénévoles, qu'ils font aujourd'hui dans la ville et qu'ils font sûrement demain au musée ou autour du musée, qu'on leur a consenti cet avantage. Mais je pense sincèrement, au regard de la qualité du travail qu'ils font, c'est pas immérité. Et si effectivement ce risque existe, et s'il venait à se traduire, on prendrait les dispositions pour ou l'étendre, ou limiter plus drastiquement l'utilisation du tarif réduit. Oui.
Dernière question. Où en est-on pour la restauration alimentaire?
Alors, la restauration alimentaire, on avait un projet de concession qui, pour l'instant, n'a pas fonctionné, puisqu'on relance une consultation auprès des entreprises, quand je dis entreprises spécialisées, c'est de professionnels du secteur de la restauration. Donc, c'est une information que je souhaitais vous donner. Donc, on repart pour un tour de négociation avec des entreprises ou des restaurateurs qui souhaiteraient venir installer sous forme de concession dans ces locaux un café, puisque c'est un café, un café au sens café-brasserie, ça n'est pas que du café qui sera servi dans cet établissement. Monsieur Durançois, vous avez une question.
C'était sur le même sujet. Vous avez revu les contraintes un petit peu, parce que j'avais sorti le dossier, c'était ne serait-ce déjà que les horaires de fermeture. Comment vous allez faire pour avoir une brasserie tout en fermant un parc à 21h?
Tout simplement parce que le candidat avec lequel on discutait ne voulait pas exploiter le soir, lui. Donc c'était lui qui avait fixé ses conditions, à savoir qu'il souhaitait travailler le matin et l'après-midi, mais souhaitait surtout pas être ouvert le soir, parce que le soir, évidemment, pour des problèmes de personnel, c'était plus contraignant pour lui. Donc maintenant, la nouvelle négociation qui va s'engager avec de nouveaux candidats, on s'adaptera à cette proposition. Mais en tout état de cause, il y a des moyens qui permettent de faire en sorte que les gens sortent par l'avenue de Champagne et pas par le parc du musée le soir. C'est-à-dire qu'il y a une entrée sur l'avenue de Champagne, une entrée directement sur l'avenue de Champagne, une entrée par la cour. Il va de soi que si le parc est fermé à une certaine heure, les clients du restaurant ne sortiront que par l'avenue de Champagne pour ne pas se retrouver dans un parc qui est fermé. De toute façon, ils risqueraient de descendre le parc et de se retrouver face à une grille fermée en bas. Mais ça, c'est les choses qu'on travaille avec les candidats en question pour essayer de s'adapter au mieux à leurs contraintes et en même temps que s'adapte à nos propres contraintes, qui sont des contraintes de sécurité.
Et ce sera toujours sur une concession de 9 ans ?
C'est discutable. C'était 9 ans, pourquoi ? Parce que ça permettait à un...
Parce que l'investissement qu'il y a à faire sur 9 ans, c'est pas, si ce n'est pas renouvelé...
Encore, c'est discutable. C'est-à-dire qu'on discute avec des restaurateurs qui fixent un niveau d'investissement qu'ils envisagent de faire. Et la durée de 9 ans peut varier. On peut décider que c'est un contrat de 12 ans ou de 9 ans. Tout dépend du montant de l'investissement qui est fait par le restaurateur en question. Ça peut varier du projet en fonction du projet. Tous les candidats n'ont pas forcément la même ambition pour cet établissement. Et en fonction, par exemple, du chiffre d'affaires qu'ils vont faire. Évidemment, quelqu'un qui voudrait exploiter midi, après-midi et soir fera un chiffre d'affaires plus important que quelqu'un qui ne ferait que midi et après-midi. Donc en fonction de ça, il aura peut-être des investissements supplémentaires à faire et il aura peut-être besoin de travailler le soir et donc de négocier de nouveaux horaires d'ouverture avec la ville. Notre intérêt à nous, c'est que, évidemment, on trouve un exploitant qui... exploite ce local à ses risques et périls, ça n'est pas d'empêcher quelqu'un de gagner sa vie. Évidemment, il faut que l'exploitant qui vienne dans cet établissement puisse, non seulement récupérer l'investissement qu'il aura fait, mais en même temps payer ses salariés et dégager un profit de cette activité. C'est normal. Hein. Alors, on n'a pas voulu pour l'instant se tourner vers des groupes spécialisés, parce qu'il existe un certain nombre de groupes qui sont spécialisés justement dans la gestion des restaurations situées dans les musées. Il en existe à Paris, dans beaucoup de musées, ce sont des groupes qui sont organisés pour ça, dont le métier, c'est de faire de la restauration dans des espaces culturels. Voilà. Pour l'instant, nous, on souhaite privilégier des candidats locaux ou régionaux, enfin, marnais, grosso modo, pour qu'effectivement... ce café puisse être exploité dans les meilleures conditions et en même temps qu'il puisse aussi, par la qualité des prestations offertes, refléter la qualité du musée. On ne peut pas imaginer qu'on ait demain un fast-food dans ce local. Quoi. Je cite volontairement cet exemple pour l'évacuer. Pas d'autres questions ? Avis contraire ? Abstention ? Une abstention. Le rapport est adopté. Nous poursuivons avec le rapport 5.1, Joachim Verdier.
Merci, Monsieur le maire. Dans le cadre des aménagements du chemin des côtes et des bassins de rétention hydraulique, la ville d'Épernay, maître d'ouvrage unique, souhaite confier à l'ASA, l'association syndicale autorisée d'Épernay et de Pierry, la maîtrise d'ouvrage de l'opération désignée sous le nom d'aménagement du chemin des côtes et de bassins hydrauliques. Je vous invite donc à approuver les termes de la convention de maîtrise d'ouvrage unique pour les travaux de réseau d'eau pluviale et d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer la convention.
Merci. Donc c'est une avancée dans le cadre de l'ASA. Ça n'a pas toujours été facile de travailler avec l'ASA, mais on finit par avancer. Il y a des objectifs ambitieux. On aura toute une série de conventions qui vont venir s'enchaîner les unes derrière les autres, notamment lorsqu'il s'agit de transfert de la maîtrise d'ouvrage pour des travaux qui concernent évidemment des chemins en lien direct avec les bassins versants viticoles qui sont aussi bien sur le Mont Bernon que sur les côtes ouest. Pas de questions sur ce rapport. Oui, Monsieur Angers.
Non, je participerai pas au vote.
Avis contraire, abstention. Le rapport est adopté. Nous poursuivons avec le rapport 5.2. Anne-Marie Legras.
Merci, Monsieur le maire. Chers collègues, je vous propose de régulariser rétroactivement et à la demande du notaire en charge d'une prochaine vente de cette parcelle la situation d'une ancienne propriété de la ville située avenue du Maréchal Joffre, vendue depuis 1992, en constatant d'une part sa désaffectation en tant qu'elle n'est plus utilisée pour le service public et en prononçant d'autre part son déclassement du domaine public au jour du premier acte de vente. Donc il s'agit d'une régularisation.
Oui, je ne sais pas ce qui s'est passé à l'époque,
mais
il y a dû y avoir un oubli à l'époque.
Oui, voilà.
Mais l'ancienne bascule, je ne sais pas où elle était, moi, personnellement.
C'était à l'entrée de la petite vitesse.
D'accord.
C'était la petite vitesse quand on allait au Cernin.
En 92, vous m'excuserez, j'étais pas né. Bien, avis contraire, abstention, le rapport est adopté. Nous passons au rapport 5.3, Anne-Marie.
Chers collègues, je vous propose d'émettre un avis favorable au projet de PLU arrêté de Magenta, après avoir pris connaissance des différents documents le composant.
Oui, on a travaillé effectivement avec Magenta, enfin, et de même que Magenta a été associé aux travaux du PLU, parce qu'on a évidemment, j'allais dire, une frontière, on a une délimitation commune, et il est important que ce qui est entrepris sur Magenta puisse correspondre à ce qui est entrepris sur Épernay pour pas qu'on aboutisse à des aberrations. Donc c'est un peu le résultat de cette concertation. Pas d'opposition, pas d'abstention. Oui, monsieur, c'est une question ou c'est une abstention? Deux abstentions. Le rapport est adopté. Rapport 5.4, Jonathan Rodriguez.
Merci, monsieur le maire. Chers collègues, je vous propose d'adopter cette délibération qui nous engagera plus concrètement avec le parc naturel régional de la montagne de Reims dans ce qu'on appelle un projet alimentaire territorial. Il s'agit ici de voir à l'échelle du département, puisque c'est à l'échelle du triangle marnais qu'on fait ce projet, d'alimenter, de se fournir en tout cas en légumes et en fruits, et en viande, pourquoi pas, sur notre territoire marnais, d'alimenter nos cantines, nos restaurants, mais aussi la population de l'agglomération d'Épernay, de tout le territoire marnais, qu'on puisse avoir en local des produits de l'agriculture, de nos maraîchers locaux. Donc c'est une initiative qui a été lancée en décembre 2018, c'est inscrit dans la délibération. Il y avait un séminaire qui avait lieu à Haï, auquel j'ai participé, où il y avait toute une réunion de tous les acteurs, la Chambre d'agriculture, des expériences locales sur comment arriver en local à se fournir et avoir des terres agricoles pour le maraîchage et pour l'agriculture d'alimentation humaine. Donc on s'est engagé là-dessus, on a déjà quelques éléments à apporter. Là, il s'agit de s'engager, et puis vous avez vu la liste des partenaires, l'agglomération sera amenée aussi à délibérer pour rejoindre ce projet, puisqu'évidemment, il faut des terrains agricoles. On les trouvera plus facilement à la campagne qu'à la ville, mais on a déjà des propositions qui émergent. J'ai déjà reçu une proposition d'un agriculteur, pour le coup, sparnassien, qui propose 2 hectares à mettre à disposition. Alors, est-ce qu'entièrement ou pas, il faut regarder si c'est ce qu'on peut y faire, mais en tout cas, il y a déjà des propositions qui vont dans ce sens-là. Et évidemment, ce sera ouvert aux acteurs publics, mais aussi aux acteurs privés, évidemment, donc API, qui nous fournit pour nos cantines, pourra, évidemment, et d'ailleurs est demandeur, d'avoir des fournisseurs locaux. On en a déjà beaucoup, mais d'autres sont amenés à rejoindre, et d'autres terrains sont amenés à rejoindre, en tout cas, à la production locale. Donc je vous demande d'adopter cette délibération qui nous engage au PNR, qui sera chef de file. C'est lui qui gérera, qui sera l'animateur de nos 3 agglomérations marnaises pour ce projet.
Merci. Des questions? Pas d'opposition. Madame, pardon, je n'ai pas vu.
Comment on pourra avoir accès à cette production?
À la production ou à l'étude? Parce que là, pour l'instant.
La production.
Je pense que c'est tout à imaginer. On verra quelles seront les quantités disponibles, en tout cas produites. Mais l'idée, c'est que si on peut aller jusqu'au bout et proposer à toute la population, ce qui est au début fléché, c'est plutôt les cantines, les restaurations collectives. C'est ce qui, en premier, est imaginé. Les collèges, les lycées, les écoles, qu'elles soient gérées en direct ou gérées par une délégation de services publics. Donc ça, c'est le premier vecteur. Ensuite, il y a aussi les AMAP,
les magasins de producteurs.
Voilà, la vente directe, les magasins de producteurs qui seront amenés à se réunir et à vendre aux particuliers directement. Et évidemment aussi la restauration, puisqu'on a aujourd'hui maintenant beaucoup de chefs de nos restaurants, qu'ils soient étoilés ou pas d'ailleurs, qui cherchent à faire de la cuisine locale et aller chercher des produits qui viennent le plus proche possible de la cuisine du restaurant. Et souvent, certains chefs ont le potager pas loin du restaurant, le leur. Donc c'est des choses qui sont imaginées. Et aujourd'hui, on ne sait pas comment on va pouvoir structurer la filière. On n'en est qu'au début. Mais évidemment, le but, c'est d'avoir le maximum de débouchés possible. C'est ce que demandent les agriculteurs pour vendre le maximum de légumes en local.
En direct, sans intermédiaire, et donc ce qui est aussi en termes de pouvoir d'achat pour les producteurs est beaucoup plus intéressant que de passer par des intermédiaires.
Parce qu'il y a déjà ça à la sortie de Reims sur Vitry-les-Reims et au centre-ville de Châlons à côté du théâtre.
Oui.
Il y a
une espèce de petit supermarché de producteurs.
Oui,
on est allé. Je suis allé les voir et nous on regarde d'ailleurs à la possibilité qu'on pourrait éventuellement trouver pour faciliter l'implantation de ce genre de,
de commerce collectif, hein, puisqu'ils sont une dizaine de producteurs, de s'installer, pourquoi pas, à Épernay, hein, ou en périphérie d'Épernay, de manière à ce que les consommateurs puissent acheter des produits locaux plutôt que de passer par la grande distribution. Mais ça, ça fera partie de la fin de l'étude. Pour l'instant, il faut recenser le potentiel, trouver les porteurs de projets, et derrière, effectivement, aussi bien pour de la restauration collective que pour de l'alimentation individuelle, trouver des acteurs capables de porter collectivement ou pas des boutiques de producteurs.
Et évidemment, en premier lieu, on ira aussi voir nos maraîchers déjà qui sont déjà présents sur l'agglomération, à Plivaux, à Voipreux, à Mardeuil. Ces personnes-là sont évidemment des interlocuteurs.
À Brugny-Vaudancourt.
Oui, à Brugny, oui, aussi à Brugny. Enfin, il y en a d'autres qui existent. Voilà, ceux-là sont déjà en première ligne pour soit s'étendre, soit déjà. Bon, ils ont déjà un bon réseau de distribution déjà formé.
Monsieur Angers.
Oui, je crois qu'effectivement, il faut agir en local. Donc, l'initiative est méritoire. Moi, je la rapproche un petit peu de la délibération que nous avons eue également à la communauté d'agglo qui concernait l'agence de l'eau avec la volonté de réimplanter des productions sur le territoire. Je crois qu'effectivement, il faut mettre en synergie tous les réseaux qui existent pour arriver à imaginer des solutions. Agir en local, mais je pense qu'il faut aussi influencer à d'autres niveaux, notamment au niveau de l'Europe, et ça au travers des parlementaires de vos partis respectifs, infléchir la politique européenne, notamment la politique agricole commune, qui depuis 30 ans a quand même fait en sorte d'éliminer l'agriculture qu'aujourd'hui on souhaite reconstruire. Parce que la politique agricole commune, depuis 30 ans, s'est efforcée de consolider des grosses exploitations productivistes, et d'ailleurs de manière assez aberrante, puisque ce sont les céréaliers qui touchent la large manne financière de la politique agricole commune, au détriment même des éleveurs qui ont portion congrue dans ce domaine, et encore pire pour les agriculteurs biologiques, hein, pour l'agriculture biologique qui aujourd'hui peine à recevoir les aides de la politique agricole commune, qui reçoit les aides au fil d'un parcours administratif qui est hyper compliqué d'une part, et puis allongé par toute une série de contrôles. Donc je crois qu'effectivement, initiative locale, très bien, mais aussi infléchir, faire en sorte de sortir de ce tronc commun au niveau des majorités européennes qui n'entendent pas le besoin de diversification des territoires et que l'on n'est à même, effectivement, au travers d'initiatives et d'idées, peut-être de modifier.
Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de changer, pas assez vite à mon goût, pas assez vite à votre goût non plus, mais je crois pouvoir dire qu'effectivement, on est en train d'amorcer la bascule d'un modèle agricole qui a été voulu au lendemain de la guerre, hein, qui était l'autosubsistance, puis le développement des exportations, parce que c'était une des grandes richesses françaises d'exporter son agroalimentaire. Aujourd'hui, on revient sur d'autres considérations qui sont celles d'aménagement des paysages et de bien-être humain qui passe évidemment par d'autres formes d'élevage ou de culture. Et quand on voit aujourd'hui effectivement l'appétence des consommateurs pour les filières courtes, pour les produits produits localement, pourvu que ça dure longtemps, et moi je suis intimement persuadé que la clé de tout ça, c'est le consommateur. Le jour où le consommateur arrêtera de consommer des produits entre guillemets dégueulasses, ça fera aussi bouger toute la filière autour. Mais voilà, c'est quelque chose qui va prendre progressivement. Ça passe aussi par, j'évoquais tout à l'heure, des démarches, y compris dans les quartiers, pour permettre à certains de revenir vers la nature, vers le jardinage, etc. Ça occupe les gens et en plus, ça leur permet de redécouvrir le vrai goût d'une tomate ou le vrai goût d'une carotte maison qui est quand même meilleur qu'un bac de carottes râpées achetées tout près au supermarché. Il y a toute une acculturation nouvelle à faire. Ça prendra du temps, ça ne se fera pas de coups de cuillère à peau. Hein. Ça se fera, j'allais dire, ça prendra des années, mais je pense qu'il est en train de se passer un certain nombre de choses aujourd'hui et ça va dans la bonne direction, incontestablement.
D'accord avec vous sur l'idée, l'essentiel. Ceci étant, c'est beaucoup plus facile aujourd'hui d'acheter un steak à la flotte, quand on voit le scandale de ces derniers jours, que du homard.
Ah oui, non mais attendez. Oui.
Non, mais je veux dire, il y a une dimension économique.
Bien sûr, mais bien sûr.
Donc, une dimension sociale.
Oui,
dans,
bien sûr.
Ce qu'on souhaiterait dans l'amélioration. Voilà.
Non, non, mais vous avez remarqué que je parlais de carottes et de... je ne sais plus quel légume, et de tomates. C'est-à-dire des choses qu'on aime tous. Et qui, voilà, voilà, voilà. Un jour, on fera du homard dans le cubri. sur ce rapport, avis contraire, abstention. Le rapport est adopté. Nous poursuivons avec, je crois, Jonathan encore.
Oui, oui, c'est une convention qu'on doit renouveler. On est relais national, bah pour le local évidemment, relais national du label Éco-École, qui est, que vous connaissez évidemment, qui est maintenant étendu aux écoles maternelles, qui était dans les écoles primaires et qui a bien marché sur notre territoire puisque quelques écoles ont rejoint ce dispositif. Et on a signé une convention il y a quelques temps, il y a 3 ans, pour être relais national et former, expliquer le dispositif aux enseignants qui voudraient engager leur classe, leur école dans une démarche éco-école. Donc on a pu accompagner quelques écoles et donc on re-signe une convention pour toujours être labellisé et pouvoir renseigner les écoles du territoire d'Épernay, mais aussi voilà, dans la Marne, si certains veulent nous questionner sur comment on procède, on peut leur répondre puisqu'on sera, on aura conventionné avec eux.
On pourra en parler à la communauté d'agglomération puisque, oui, au nom de la communauté d'agglomération, on gère un certain nombre d'écoles sur le secteur sud.
C'est prévu, c'est engagé.
Si on peut transférer notre savoir-faire en la matière, c'est pas une mauvaise chose.
Il y a déjà eu un contact avec une école de vertu qui s'est faite et puis c'est aussi une action qui sera, à mon avis, à porter d'une manière ou d'une autre dans le plan climat qui va être, qui va être bientôt adopté.
Pas d'opposition, pas d'abstention, le rapport est adopté. Signalisation d'aire de covoiturage, Jonathan.
Oui, ici, c'est, on a 2 aires de covoiturage qui sont prévues à Épernay. On a inauguré la seconde à Vertu. Il y avait Aï en premier, Vertu en second, et maintenant c'est Épernay puisque les travaux, les petits travaux, légers travaux ont été effectués, et les panneaux, nous les avons reçus aussi. Et ça, c'est une action qui est... qui découle de TEPCV, donc les territoires énergie positive pour la croissance verte, qui date de 2015-2016. Et le Parc Nature et la Région de la Montagne de Reims était chef de file sur la création, en tout cas la signalisation de 40 aires de covoiturage sur tout le territoire qui va du sud de Reims jusqu'au sud de notre agglomération, en passant par l'agglo de Dormans ou celle d'Ailly. Et c'est financé à 80% par l'État, et le reste, les 20% restants, sont pris en charge par le PNR. C'est pourquoi on vous demande de signer cette délibération, de voter cette délibération et de recevoir une somme de 1 280 euros qui correspond à la part du PNR sur sur ces 2 aires de covoiturage. Donc ils sont situés, elles seront situées une de 10 places sur le square Raoul Chandon et la seconde qui est de 5 places en bas de la rue de Lorraine pour se diriger vers Châlons-en-Champagne. Et un jour viendra celle qui, quand les travaux seront terminés, à côté du stade, on aura une aire de covoiturage pour se diriger vers Reims. Donc c'est d'aller dans des nouvelles habitudes de mobilité. Et c'est pour ça qu'on a recruté depuis maintenant presque un an une chargée de mission mobilité durable à l'agglo, qui sert aussi au territoire d'Ailly et de Dormans, pour travailler, pour accompagner les populations sur la mobilité durable, savoir comment se déplacer autrement, que ce soit... par des véhicules différents, par moins de véhicules, par des vélos, la marche à pied, etc. En tout cas, les transports en commun, évidemment, puisque c'est une compétence forte de l'agglomération. Donc, on a engagé cette chose-là. Et la mobilité, ce sera un point important du plan climat qu'on devra aussi détailler. Il y a beaucoup d'actions menées en la matière, puisque elles sont la mobilité, c'est les transports, c'est environ 20 à 25% des gaz à effet de serre. Donc, il y a des actions menées en la matière. Les aires de covoiturage sont une première réponse à l'enjeu fort qui nous attend.
Pas d'autres questions, pas de questions pardon, sur ce rapport. Avis contraire, abstention, le rapport est adopté. Il nous reste les décisions prises par délégation du conseil municipal. Rapport 6, y a-t-il des questions? Oui, allez-y.
Pardon. Oui, c'était juste une explication concernant le point 7 des décisions du maire qui concerne... amélioration de l'habitat. Il y a de 62 et quelques mille euros. Et de quel habitat plus précisément s'agissait-il?
Alors,
de quelle opération en fait qui est ciblée à travers ça? Voilà.
C'est l'action cœur de ville. C'est-à-dire, vous savez que dans l'action cœur de ville, il y a une action en direction du commerce et une action pour remettre sur le marché des logements situés dans le périmètre d'Action Cœur de Ville qui comprend le centre-ville, Et le quartier, le futur quartier Berge de Marne, là ça concerne évidemment plutôt le centre-ville, ah oui. Où une étude du COMAL qu'on vous rendra évidemment dès qu'elle nous sera parvenue élabore à la fois un diagnostic, c'est-à-dire à recenser tous les logements vacants et avec tous les obstacles liés à la remise sur le marché de ces logements, l'objectif est d'en remettre un maximum sur le marché, d'aider les propriétaires ou occupants ou pas à remettre ces logements sur le marché parce que ce sera de la population supplémentaire en centre-ville. D'autres questions, Monsieur Lefebvre ?
Oui, Monsieur le maire, j'ai dû zapper quelque chose, mais j'ai vu dans la presse que donc la Dent Creuse, la rue Eugène Mercier, allait être vendue ou était en vente pour une somme de 638 000 euros. Je voulais savoir à quel moment on a été informé, à quel moment il y a eu discussion là-dessus.
Alors, quand est-ce qu'on a eu le compte ? Oui, on en a jamais parlé. Pour l'instant, c'est pas vendu. Hein. Pour l'instant, c'est un appel à candidature.
Oui, un appel à candidature, mais il y a déjà un prix fixé, donc les domaines ont été consultés.
Ah oui, mais le conseil municipal n'est saisi qu'à partir du moment où il y a une cession. Pour l'instant, il n'y a pas de cession. Donc,
il n'y a pas de cession.
Oui, ça figurait dans le PLU, puisque c'est l'une des OAP du
PLU. Oui, mais on ne sait pas que c'est si avancé, ou là, il y a une accélération soudaine.
Non, non, du tout. Non, ça fait un petit moment.
Je me demande pourquoi.
Non, ça fait un petit moment qu'on travaille dessus. On attend les candidatures, donc on a plusieurs promoteurs qui se sont pour l'instant manifestés, ont retiré le dossier. On ne sait pas combien remettront une offre, mais en tout état de cause, ce sera le conseil municipal qui décidera de la vente du oui, bien le moment
non,
venu.
Non, mais parce que quand on en a discuté il y a un an...
Quand on a présenté l'étude...
En séance privée, mais on n'avait pas dit que ça allait être vendu, c'était une supposition encore.
Ah si, on avait clairement identifié qu'il pouvait y avoir sur ce site-là un projet de promotion privée, puisqu'on n'avait pas d'usage public, et qu'il était envisagé de reconstruire le front bâti de la ruelle du Jard et de la rue Eugène Mercier. Aujourd'hui, on a lancé un appel à projet, à charge pour des constructeurs de se manifester ou pas, et de nous faire des propositions. Donc, pour l'instant, on n'a pas de proposition, enfin, en tout cas, pas officiellement déposée.
18 octobre, ça arrivera rapidement.
Oui. Et mais puis, dès qu'on les aura, on vous...
Donc, concernant l'aménagement du parking souterrain, donc le bureau d'études qui a été choisi est le bureau d'études qui était venu présenter là ou c'est un autre bureau d'études ?
Non, c'est pas le même projet. Là, on n'est pas sur le même dossier. Le bureau d'études qui avait présenté son étude, c'était un bureau d'études qui avait pour mission d'essayer d'organiser de la manière la plus rationnelle les différents espaces du futur JAR. Un jardin public... Le ballon.
Donc c'était des propositions,
C'était une étude de faisabilité. Ensuite, il faut se tourner vers des constructeurs, notamment pour la poche du Jard, qui vont décider de construire. Alors, ils vont nous faire des propositions différentes selon les uns les autres, en termes de nombre de logements, en termes de nature de logement, d'aménagement de l'espace, pour qu'on retienne une des propositions. Viendra la même chose également pour la construction du parking souterrain, mais qui viendra ultérieurement.
Mais c'était budgété, ces études, pour 2019 ?
Ah ben bien sûr, puisqu'on l'a réglé. Oui. Celle qui vous a été présentée il y a pratiquement un... C'était il y a l'hiver dernier ?
Alors,
non, l'étude de...
Pour cette étude sur le parking...
L'étude Le Bihan, c'était il y a, à mon avis, c'était il y a à peu près un an.
L'étude sur le parking, ça, elle coûte combien, par exemple ?
L'étude de parking, elle n'est pas encore faite. Non, les études qu'on a faites pour l'instant, c'est des études de faisabilité. C'est-à-dire, est-ce que l'espace disponible peut être aménagé et si oui, comment ? Ensuite, il va de soi que sur chacune des parcelles qui va être identifiée pour des aménagements différents, que ce soit un jardin public, que ce soit un parking souterrain, que ce soit un projet privé ou autre, chacun des projets va faire l'objet d'études qui seront portées dans le cadre de concours ou d'une mise en concurrence, comme c'est le cas pour la poche du Jard. Et donc, pour l'instant, effectivement, tant qu'on n'a pas de résultat, on ne vous présente pas le rapport, mais dès qu'on aura un lauréat, c'est-à-dire un projet susceptible de répondre au cahier des charges qu'on a déposé, à ce moment-là, le conseil municipal se prononcera. Et quand viendra le moment du jardin public, le jardin public, j'ai annoncé, moi, qu'on partait plutôt sur l'idée d'un concours pour avoir, sur la base d'un cahier des charges, un appel à candidature auprès d'architectes paysagistes. Et puis, trois ou quatre seront retenus, comme on l'a fait pour la passerelle. et les élus auront choisi entre les 3 ou 4 projets lauréats. Mais ça, c'est un peu plus tard. Bien, pas d'autres questions ? Écoutez, l'heure du jour est...
Non, et encore.
Pourquoi je ne suis pas...
Ah, le 7. Christine. Le 7.
Ah, pardon, parce qu'on termine toujours par celui-là. Donc, moi, j'ai mes habitudes.
On va rompre les habitudes. Oui. Donc, comme vous devez vous en souvenir, la CRC, la Chambre régionale des comptes, a procédé à l'examen des comptes et de la gestion de la collectivité entre mars 2016 et mars 2018. La présentation du rapport d'observation a été faite lors du Conseil municipal du 21 septembre 2018. L'article L243-9 du Code des juridictions financières prévoit désormais que l'exécutif de la collectivité contrôlée présente devant son assemblée délibérante dans l'année qui suit la présentation du rapport les actions qu'il a entreprises à la suite des observations de la CRC. Tel est l'objet de la présente délibération.
Alors, je rappelle que effectivement, ce rapport qui avait été présenté et détaillé il y a déjà plusieurs mois de cela, comptait 5 observations et 2 recommandations. Le rapport sur les actions mises en place par la collectivité pour y répondre, il est assez synthétique compte tenu du caractère synthétique des propositions qui étaient faites. Le seul point sur lequel on travaille actuellement, c'est les moyens d'améliorer le taux d'exécution budgétaire qui est lié à notre calendrier d'adoption du budget. Parce que plus on vote tôt le budget, plus on peut avoir un taux d'exécution meilleur. Deuxièmement, jusqu'ici, on pratiquait beaucoup la pratique des reports. Il faudrait, en réalité, si on voulait améliorer sensiblement les reports, soit passer dans un régime d'APCP, autorisation de programme crédit de paiement. En clair, quand vous ouvrez une autorisation de programme, je prends l'exemple d'un projet d'un million d'euros qui va être dépensé en 2 ou 3 exercices parce qu'une réalisation se fait sur 2 années ou 3 années. On ouvre une autorisation de programme, on vote une autorisation de programme d'un million d'euros et chaque année, on vote des crédits de paiement jusqu'à un plafond de 1 million d'euros. Donc, c'est une autre forme de gestion. Il faut réfléchir à cette solution-là. L'autre solution consisterait à systématiquement, en fin d'année, récupérer les crédits non dépensés, les annuler lors du Conseil du mois de décembre et les réinscrire au Conseil du mois de juillet, du mois de janvier, ce qui suit, de manière à ce qu'on ait pour le coup un taux d'exécution budgétaire meilleur. C'est la recommandation que m'avait fait le magistrat de la Chambre régionale des comptes. C'est un peu compliqué parce qu'en fait, on passe notre temps à annuler des crédits et à les réinscrire, mais en même temps, si on annule les crédits non dépensés au 31 décembre, ça fait monter en flèche le taux d'exécution budgétaire. Alors, c'est plus satisfaisant, mais en même temps, bon... on va faire cet exercice-là tous les ans, alors que la solution des reports nous semblait plus simple et plus fluide. Donc, on travaillera sur le sujet, et puis on aura l'occasion, ou à l'occasion des orientations budgétaires, ou à l'occasion du vote du budget, de vous dire quelle est la formule qui nous semble la plus opérationnelle. Pour avoir vécu dans ma carrière le passage d'une comptabilité classique à une comptabilité d'APCP, la formule des APCP, quand on est habitué, est très intéressante, mais c'est sacrément compliqué à mettre en route. Je l'ai fait à la région il y a très très longtemps. Et c'est vrai que la pratique des APCP, quand on passe d'une culture comme la nôtre à une culture des APCP, c'est compliqué, ça prend un petit peu de temps. Une fois qu'on s'y est fait, c'est pratique. C'est pratique et c'est fluide. Mais on va regarder les 2 solutions possibles. La deuxième solution présenterait l'avantage de pouvoir être mise en œuvre dès le conseil municipal de fin d'année. Et on aura immédiatement le résultat. Mais voilà, on travaille sur ce sujet-là et c'est vrai que les avis divergent entre ceux qui prônent le recours aux APCP et ceux qui prônent ce que nous a conseillé le magistrat de la Cour des comptes, qui lui-même n'a jamais géré une collectivité, mais qui considérait que c'était une pratique qui se faisait couramment quand on voulait augmenter le taux d'exécution budgétaire. Tout ça est un peu un artifice, hein, puisque, évidemment, vous faites grimper votre taux d'exécution budgétaire. L'idéal, c'est quand même que par les travaux, par les marchés, par la vitesse d'exécution des travaux, on arrive à faire un taux d'exécution meilleur. Mais il y a un certain nombre d'aléas qui interviennent dans une année qui expliquent parfois qu'on a un peu de retard. Je prends l'exemple du musée. Personne n'a vu venir le coût du plomb. Hein, c'est exactement le même problème qui se produit dans des circonstances différentes sur Notre-Dame. Mais nous, le fait d'avoir démonté et curé l'intérieur du musée a mis en, dans l'atmosphère du musée une poussière de plomb que personne n'avait vu venir. Et donc, on a arrêté les travaux pendant 3 mois pour pouvoir extraire, aspirer cette poussière de plomb et permettre aux entreprises de revenir travailler alors qu'elles ont dû interrompre leur chantier pendant 3 mois. C'est l'exemple type d'un cas de force majeure qui est totalement inconnu et qui, c'est la première fois dans l'histoire de la ville qu'on avait ce genre de difficulté. Et voilà, et 3 mois de paiement en retard, bah, ça fera un taux d'exécution moins bon à la fin de l'année. Des questions sur ce rapport ? Pas de questions ? Oui ?
Juste une interrogation. Enfin, cette formulation, là, je l'ai relue plusieurs fois, elle m'interroge. Le point 6 dans les documents, la mise en place progressive de cet outil est en cours de réflexion sur les opérations pluriannuelles les plus importantes.
Oui.
Alors je me dis, la mise en place progressive est en cours de réflexion. Si c'est en cours de réflexion, il n'y a pas de mise en place progressive pour l'instant. J'ai tendance à penser comme ça.
Non. La mise en place progressive est en cours de réflexion. Ça veut dire qu'on réfléchit à une mise en place progressive.
Ah, vous réfléchissez. Bon, donc, c'est... Oui, mais donc concrètement, c'est qu'on n'est pas prêt là pour l'instant.
Ben, on est en phase de réflexion.
C'est... Voilà,
je viens d'évoquer.
Merci.
Non, mais je c'est viens bien. D'évoquer
merci.
Le sujet.
Non, vous confirmez ce que je. Merci.
Je viens d'évoquer le sujet à l'instant.
Voilà.
Bien. Bonne soirée à tous. Le prochain conseil, c'est le 18 novembre.